Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le débat des grandes voix du jeudi à présent avec ce soir à mes côtés, Michel Cotta. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Emmanuel Ducrot, journaliste éditorialiste à L'Opinion. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien.
Et Eric Scholl. Bonsoir Eric.
Bonsoir,
directeur
bonsoir
de la rédaction de L'Express. Alors, c'est la vive polémique de la semaine. La décision de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, de lancer une étude sur l'islamo-gauchisme dans les universités qui, selon elle, gangrène la société et peut-être aussi, dit-elle, l'université. Stupeur dans l'opposition, levée de bouclier des présidents de fac et au sein d'ailleurs de la majorité, on va en parler, où l'on préférait qu'elle s'occupe d'abord de la précarité étudiante. Alors on va reprendre les choses dans l'ordre. D'abord, Frédéric Vidal qui a dit ceci.
Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable. L'université fait partie de la société.
Gabriel Attal, lui, suite à cette sortie et la polémique qui s'en est suivie, le porte-parole du gouvernement a tenté d'éteindre la polémique en rappelant ceci.
Le président de la République est profondément attaché à l'indépendance des enseignants-chercheurs, qui est un des fondements de notre République que nous devons garantir. La priorité pour le gouvernement, c'est évidemment la situation des étudiants dans la crise sanitaire.
Alors, on va évidemment parler du fond. Y a-t-il de l'islamo-gauchisme ? Y a-t-il péril en la demeure au sein des universités ? D'abord, peut-être sur la forme et sur la séquence politique, Eric Scholl. Comment faut-il interpréter cette sortie de Frédéric Vidal, qui visiblement, en tout cas en apparence, agace aussi au sommet de l'État ?
Elle agace partout et je pense que c'était la mauvaise sortie au mauvais moment et sans doute aussi par la mauvaise personne. C'est-à-dire qu'il y a certainement un sujet, enfin il y a un sujet derrière, il y a un sujet qu'on pourrait peut-être résumer par la liberté d'expression dans le monde universitaire et elle s'y est prise alors que ce n'est absolument pas le moment. En ce moment, il y a une priorité pour les étudiants, c'est la crise étudiante qu'on traverse. Et donc du coup, ça fait un énorme flop. Ouais. Monumental et surtout, ça a été vécu comme une agression parce que parler d'islamo-gauchiste alors que le sujet n'est pas exactement là dans le monde universitaire, c'est beaucoup plus un sujet qui concerne ce qu'on pourrait appeler toutes les petites théories des genres, etc. C'est pas l'islamo-gauchiste qui n'a pas en soi de substance, si vous voulez, intellectuelle. Donc, elle s'y est très, très mal prise.
Bien. Michel Cotta, pareil, sur la dimension politique et sur le timing, c'est vrai qu'au sein de la majorité, on s'étrangle un peu et beaucoup lui disent la priorité, c'est d'abord la situation des étudiants précaires qui subissent la crise sanitaire. On verra le reste ensuite.
Non, mais ça, on est tout à fait d'accord sur le timing. Surtout le lendemain où la loi est votée, la loi sur le séparatisme est votée, je trouve que c'est... vraiment, ce n'est pas le moment. Quoi. Bon. Mais moi, je ne sais pas ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme et j'aimerais bien l'entendre.
Alors, on va en parler.
Parce que s'il s'agit de dire que les guerres coloniales ont été un échec pour la France, que la France n'a pas su gérer son passé colonial, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais s'il s'agit de dire qu'on soutient l'islamisme dans ses formes excessives, alors là, non.
Oui. Bon. Non, c'est parfois une forme de censure qui peut être appliquée par un certain nombre de syndicats étudiants et d'étudiants contre une forme de pensée, alors que l'université doit être le lieu, normalement, de la liberté du débat, quel qu'il soit d'ailleurs, quels qu'en soient les avis. Emmanuel Ducrot, pareil, votre ressenti d'abord sur la séquence politique et sur la forme, parce que ça a quand même son importance. C'est vrai que Frédéric Vidal était plutôt critiqué pour sa non-gestion du péril jeune, on va dire étudiant. Et la sortie qu'elle fait porte évidemment sur cette polémique autour de l'islamo-gauchisme. Comment vous jugez cette séquence, vous ?
Elle passe complètement à côté de son sujet, ce qu'on appelle un hors-sujet. Enfin, je veux dire, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des problèmes. Mais effectivement, le moment est mal choisi. Elle est lâchée en rase campagne à un moment où elle aurait quand même plutôt besoin de soutien parce qu'effectivement, l'université française est à feu et à sang. Et les étudiants ne savent plus où ils habitent, ils ne savent plus comment se nourrir d'ailleurs, ce qui est quand même aussi un autre problème.
Oui.
Et en plus, elle fait une espèce de sac à provision idéologique avec ce vocabulaire d'islamo-gauchisme. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, l'islamo-gauchisme. Ça veut dire que ce n'est probablement pas la façon dont il faut décrire certaines dérives
de l'université
française.
Mais alors, comment vous interprétez cette sortie ? Pourquoi cette sortie ? Pourquoi à ce moment, elle fait de la politique politicienne ?
Mais
ou
je
elle
vois
essaye
même pas
d'exister
pourquoi
ou...
Je ne sais pas pourquoi elle s'est emparée de ça.
Elle a rebondi. Le sujet n'est pas nouveau. Jean-Michel Blanquer s'en était déjà emparé au mois d'octobre. Et il y a un sujet qu'on pourrait explorer. Mais simplement, les termes qu'elle utilise, tout à coup, décréter une enquête, évidemment, en disant c'est un chiffon rouge qui est agité, en disant on va faire une enquête. Tout d'un coup, elle met en cause
avec l'idée d'enquête.
ce qu'on appelle la liberté académique. Et donc, en réalité, et on a vu évidemment tout immédiatement le monde des chercheurs, le CNRS, les présidents d'université tout de suite grimper, érupter contre cette enquête. Oui. Et elle et ce qu'elle voulait faire, c'était précisément chercher si la liberté d'expression était mise en cause ou pas dans les universités, mais on a l'impression que c'est la liberté académique qui est remise en cause. Vous voyez, ces deux principes qui s'affrontent.
Et c'est vrai qu'elle s'est mis un peu tout le monde à dos. Le CNRS, j'ai leur réaction sous les yeux, a précisé dans un communiqué qui a donc été mandaté pour faire des études sur la réalité de l'islamo-gauchisme au sein des universités, précise « L'islamo-gauchisme, je les cite, c'est un slogan politique utilisé dans le débat public et ça ne correspond à aucune réalité scientifique. » Michel Cotta.
Aucune réalité scientifique, ça je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a ça correspond à une évolution des syndicats étudiants. Ça, je crois qu'on ne peut pas le nier. Quand l'UNEF, quand on apprend dans l'UNEF qu'il y a des réunions réservées aux hommes et des réunions réservées aux femmes, franchement, on s'arrache les cheveux.
Oui.
Bon, donc que ça,
surtout
ça existe.
Quand on connaît l'histoire de l'UNEF.
Que ça existe. Mais l'accusation est portée sur, au fond, les thèses des uns et des autres, sur les thèses qui sont fabriquées par les étudiants, parce que font les chercheurs. Là, franchement, ce n'est pas à elle, ce n'est pas au ministre de dire ce qu'il faut chercher et quand il faut chercher.
Bien. Voilà pour la forme et pour la politique. Sur le fond, peut-être, Emmanuel Ducrot, on peut en parler. Quand Jean-Michel Blanquer, parce que c'est vrai qu'il avait été le premier à le dire aussi, ministre de l'Éducation nationale, il avait dénoncé en octobre 2020, ça n'est pas si lointain, les ravages à l'université de l'islamo-gauchiste. Qu'est-ce qu'on entend par là concrètement ?
Je pense qu'on entend plus le climat général que la tenue des études en elles-mêmes. Mais c'est encore une fois une espèce de grand brouet idéologique. Par islamo-gauchisme, je pense que le terme est mal choisi.
C'est quoi ? C'est un problème sémantique, vous diriez ça ?
Oui, je pense que c'est un problème. Enfin, comment dire ? Islamo-gauchisme, ça ne manque pas de sel d'ailleurs, d'interroger le CNRS sur cette notion-là. Un des façonneur, si on peut dire, de cette thèse de l'islamo-gauchiste, étant un des chercheurs du CNRS, oui. Pierre-André Taguieff, qui d'ailleurs le revendique. Donc, ça ne manque pas de sel que le CNRS explique aujourd'hui que ça n'existe pas, puisqu'il a quand même hébergé en son sein quelqu'un qui défend l'existence de ces thèses-là, en tout cas. Je pense que la dérive à laquelle entend si maladroitement s'attaquer Frédéric Vidal, c'est plus celle des thèses décoloniales, de théories du genre mal maîtrisées qui partent dans tous les sens, oui. Une espèce de décalque de l'esprit de certaines universités américaines qui sont parties dans des délires qui vrillent totalement,
oui.
Mais vraiment...
Oui.
Et qu'on essaye d'acclimater ici avec plus ou moins de bonheur.
La culture victimaire, pour le dire simplement.
Oui, c'est ça. Et puis ça donne ces réunions en non-mixité, ça donne une espèce de culture militante de l'écriture inclusive dont on ne voit pas très bien où ça va. Enfin, et ça donne toutes ces thèses-là, une sorte de racialisme latent, mais qui est plus, effectivement, je pense, le fait de syndicats étudiants, peut-être de syndicats d'enseignants, que le cœur de l'université française.
Éric Scholl.
Repris quand même aussi, ça vient, il y a un militantisme étudiant, repris aussi par des universitaires. Et ce qu'on observe, ce mouvement qu'on voit très bien infiltré en ce moment à l'université française, on l'a vu aux États-Unis, on le voit aussi en Grande-Bretagne, et pas plus tard que mardi, là, il y a trois jours, le gouvernement britannique a pris des mesures pour justement essayer d'encourager la liberté d'expression dans les universités. Vous voyez que elle tombe, c'est son calendrier de Madame Vidal est clairement mauvais parce qu'on a un autre calendrier social beaucoup plus important. Mais si vous voulez, on voit bien que la problématique, elle existe aussi ailleurs.
Oui.
C'est ce qu'on appelle la cancel culture.
Oui.
C'est-à-dire cette pression, cette quasiment censure sur les idées.
Mais c'est pas tout à fait la même chose que l'islamo-gauchisme.
C'est une nébuleuse. D'ailleurs, si vous voyez dans ce qu'elle a appelé l'enquête ensuite, dans la part prise des thèmes de l'islamo-gauchisme, c'est plus large que ça. Et c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui une sorte de grande nébuleuse dans laquelle il y a beaucoup de sujets différents.
Finalement, c'est
la
volonté, ça a fait polémique, on en a parlé à ce micro aussi quand c'est arrivé, c'est la volonté de certains étudiants, parfois dans certaines facs, de vouloir empêcher la venue de tel ou tel penseur,
oui,
de tel ou tel écrivain, ce qui est au demeurant relativement grave.
Par exemple,
mais ça n'est pas l'islamo-gauchisme, c'est ce que vous dites, Michel Cotta.
C'est malheureusement réel. Oui, on a vu des étudiants dire « non, telle pièce ne nous plaît pas, il ne faut pas la jouer à la Sorbonne ». Ça me paraît absolument dangereux, mais je ne crois pas que ça se soigne comme le fait ou comme voudrait le faire Madame Bida. En tout cas, ça ne se soigne pas par le ministre, ça. Mais vous savez, je, veux pas faire, je vais faire l'ancienne, l'ancienne là.
Ancienne combattante.
Nous avons tous connu, en, dans les années après 68, il y avait une mode comme ça.
Oui.
Avec les thèses déposées étaient toutes sur le marxisme. En, en économie politique, vous aviez 10 thèses, je sais parce que c'est mon frère qui s'en occupait. Donc, il y avait 10 thèses sur le marxisme. Alors, il y a des modes. Et oui. Je crains que, de temps en temps, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, ce soit une mode. Mais que ce soit une réalité, c'est sûr aussi. Encore une fois, je ne pense pas que, ça se, que le problème se traite comme ça.
Est-ce qu'il y a un risque, Emmanuel Ducrot, que ça fracture encore un peu plus la société et qui plus est l'université?
Probablement.
Et que ça ait l'effet inverse que celui recherché?
Alors ça, je ne sais pas, mais ce qui est en jeu peut-être plus que la lutte contre l'islamo-gauchisme, c'est la pluralité des points de vue au sein de l'université. En fait, pour faire une analogie que tout le monde va comprendre dans les circonstances actuelles, c'est un peu comme les variants. Voilà, c'est comme s'il y avait une sorte de variant intellectuel qui est en train de prendre la place d'autres formes intellectuelles. Et finalement, de tuer les autres modes d'expression, comme les virus plus faibles sont tués dans l'espace par, par ces variants intellectuels qui sont quand même parfois... qui justifient un peu tout et n'importe quoi par une sociologie mal maîtrisée. La fracture, elle existe déjà au sein de l'université. Et je pense que quand, par exemple, Sylvia Lagacinski ne peut pas aller faire une conférence dans une université parce qu'on l'en empêche, quand Alain Finkielkraut ne peut pas aller faire une conférence, je crois, c'était à la Sorbonne parce qu'on l'en empêche, quand une pièce d'Eschyle ne peut pas être jouée dans une université parce qu'on accuse les acteurs de se grimer.
Ça, c'est problématique.
Évidemment que c'est problématique. Évidemment
c'est
que c'est
même
problématique.
Je trouve que c'est incroyable que ça ne se fasse pas.
Surtout que la plupart du temps...
On devrait se battre. On devrait se battre pour que ces pièces de théâtre... Eschyle. On se bat sur Eschyle maintenant. Bon, mais on devrait se battre pour que ça ne se passe pas.
Et surtout que la plupart du temps, ça repose quand même sur des lacunes culturelles énormes. Enfin, on a toujours joué Eschyle avec du maquillage.
Je finis juste une phrase. Or, le gouvernement, le ministre, ne fait rien dans ces cas-là pour rétablir, pour dire oui, on joue ça, même s'il y a une émeute, on joue ça. En revanche... Elle condamne de l'extérieur l'islamo-gauchisme.
Comment ça peut se terminer, cette affaire, Eric?
Elle a raté son coup, et elle a même ouvert, mais alors je dirais, les vannes à ses opposants, puisque là, maintenant, on peut évidemment, c'est ce qu'ils font, ils évoquent la liberté académique, etc. Et du coup, le sujet, il va disparaître, alors qu'il y a un vrai sujet derrière. Mais simplement, aujourd'hui, la priorité, elle est totalement différente. La priorité, aujourd'hui, c'est la vie au quotidien des étudiants, et là-dessus, il est vrai aussi qu'elle s'est réveillée très tard dans l'année. Je veux dire, elle aurait dû s'emparer de ce sujet beaucoup plus tôt.
Elle pourra rester en responsabilité, vous pensez ?
Pardon ?
Elle pourra rester en responsabilité, rester ministre ?
Alors, quand on regarde les communiqués à la fois du CNRS et de la conférence des présidents d'université, on se dit que ça va être très difficile parce que pour elle, ils font déjà comme si elle avait déjà, c'était déjà sorti de son poste.
Bien. On reste ensemble, on marque une première pause, 18h44. On se retrouve dans un instant. On parlera de la conférence d'Olivier Véran. Elle est toujours en cours en ce moment avec les derniers chiffres du Covid. Faut-il alléger les restrictions ? La question se pose. À tout de suite.
Europe 1. Écoutez le monde changer.